Bonjour à toutes et à tous. Chère Sylvie et Alain, nous nous connaissons depuis 8 mois. Nous, Laura et moi, nous vous connaissons depuis 8 mois environ. Et c'est vraiment un plaisir de vous connaître, d'échanger avec vous. On l'a fait déjà à plusieurs reprises et on se réjouit de continuer à échanger avec vous sur bien des sujets de fond. Et c'est beau de voir, et on l'a entendu par votre témoignage tout à l'heure, comment le Seigneur a agi dans votre vie pour vous conduire jusqu'à ce jour, aujourd'hui, où vous passez par les eaux, vous êtes passé par les eaux du baptême. Pierre a déjà rappelé tout à l'heure le sens du baptême, parce que c'est important, effectivement, de rappeler que le baptême, ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas le baccalauréat, c'est une étape importante, mais une étape dans la vie du chrétien, du disciple de Jésus-Christ. Et pour nous aider tous et vous aider particulièrement, Sylvie et Alain, à continuer à cheminer dans la vie chrétienne dans laquelle vous êtes engagés depuis le jour de votre conversion, c'est-à-dire le jour où vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, j'aimerais vous laisser une exhortation qui est celle de l'apôtre que Paul, l'apôtre Paul a laissé dans la lettre qu'il a écrite à l'église de Colosse. Alors l'église de Colosse, c'est une église qui se trouve ici dans la Turquie actuelle, une petite ville de l'Empire romain à l'époque. Et dans cette église de Colosse, les chrétiens étaient confrontés à la question du pluralisme, une sorte de cohabitation, de religion, de philosophie, de pensée, de sagesse humaine, et chacune avec ses adeptes. Alors en soi, le pluralisme a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui. Le danger, c'est quand on cherche à prendre ce qu'on pense être bon ici, ce qu'on pense être bon là, et à mélanger un petit peu tout ça, et ça donne lieu à ce qu'on appelle dans notre jargon le syncrétisme. Et des chrétiens, pas tous, mais des chrétiens de l'église de Colosse étaient séduits, étaient attirés par ce syncrétisme au point d'ajouter à l'évangile telle ou telle croyance, philosophie ou sagesse populaire, parce que tout en laissant une place à Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, ils pouvaient être amenés à considérer que peut-être l'évangile de Jésus-Christ ne suffisait peut-être pas totalement, et donc il fallait enrichir, il fallait compléter, il fallait ajouter à ce que Jésus avait fait avec des éléments qui pouvaient venir de la sagesse populaire. Mais le syncrétisme vient déformer, vient diminuer finalement Jésus-Christ et son œuvre sur la croix et le sens que tout cela a. Et c'est ce contexte-là qui était celui de l'église de Colosse, et c'est la raison pour laquelle, quand Paul a entendu ces nouvelles, il a pris la plume pour écrire aux chrétiens de cette ville. Et l'exhortation de l'apôtre Paul que j'aimerais nous laisser à tous, et vous laisser particulièrement à vous, Sylvie et Alain, ce sont deux versets qui sont au cœur du message que l'apôtre voulait laisser à ces chrétiens. Voici les deux versets, le chapitre 2, les versets 6 à 7. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Ayant été enracinés, étant édifiés en lui, étant affermis dans la foi qui vous a été enseignée, abondant dans la reconnaissance. Le petit mot ici, ainsi, tout début de notre passage, il fait le lien avec tout ce qu'il y a dans la première partie de la lettre, qui est une grande introduction, où l'apôtre Paul revient sur la personne de Jésus-Christ, combien Jésus est unique. Et voici quelques-uns des éléments que nous avons dans cette première partie. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Jésus est avant toute chose et tout subsiste en lui. Sa personne, mais aussi son œuvre, pour montrer combien l'œuvre de Jésus est parfaite, pleinement suffisante pour le chrétien. Et voici ce que nous lisons dans cette grande introduction qui précède notre passage d'aujourd'hui. Par l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Jésus s'est constitué un peuple dont il est la tête du corps de l'Église. Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de Jésus versé sur la croix. Qu'est-ce qui peut bien manquer à l'œuvre accomplie par Jésus ? Sous-entendu, rien, rien, il ne manque rien. Jésus et l'œuvre accomplie par Jésus est pleinement suffisante. C'est ça qu'il veut laisser comme substance aux Colossiens. Et dans notre verset 6, eh bien, c'est ce Jésus-là, tel que présenté ici avec ces deux dernières diaporamas que je viens d'afficher, c'est ce Jésus-là que les chrétiens de Colosse ont reçu, que nous avons reçu, que vous avez reçu, Sylvie et Alain. Et la formulation, je la trouve intéressante. Vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Vous avez reçu le Christ Jésus. C'est la seule fois dans les écrits de Paul où l'on trouve le verbe « recevoir » suivi d'un complément d'objet personnel. En l'occurrence ici, Jésus-Christ. Ailleurs, Paul invite ses lecteurs à recevoir un enseignement ou à recevoir la parole de Dieu. Mais ici, c'est Christ lui-même, sa personne et tout ce qu'il incarne, c'est lui qu'il nous faut recevoir. C'est davantage que simplement croire en lui, mais c'est aussi adhérer avec un engagement ferme à tout l'enseignement des apôtres au sujet de Jésus-Christ, tant sa personne que son œuvre. Sylvie et Alain, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ tel que dépeint dans cette première partie du livre, puisque vous avez placé votre confiance en lui, puisque vous avez adhéré à l'enseignement des apôtres, contenu dans le Nouveau Testament, au sujet de Jésus-Christ et dans la parole de Dieu dans son ensemble, eh bien voilà ce que Paul attend de nous, attend de vous, Sylvie et Alain. Marchez en lui. Marchez en lui. Cette marche dont Pierre aussi nous a parlé il y a quelques instants et ce chant que nous avons entonné. On pourrait dire aussi, vivez votre vie en Jésus-Christ. Vivez unis à lui ou vivez attachés à lui. Marchez dans les mêmes pas que lui, que ceux où il a marché. Et Paul utilise ici un verbe à l'impératif, hein, marchez en lui. On va faire un petit peu de grammaire, vous allez voir ce matin. Marchez en lui. Et Paul nous exhorte, puisque nous avons reçu Jésus-Christ, le Seigneur, eh bien continuons de marcher en lui. Continuons à compter sur lui et sur lui seul pour tous nos besoins, en particulier pour tout ce qui touche à notre salut, à notre vie spirituelle. Une manière subtile mais ô combien importante de se rappeler ou de prendre conscience que Jésus n'est pas seulement important pour le jour de notre conversion, ce jour où on a placé notre confiance en lui, non, pas seulement cela. Jésus est important chaque jour de votre vie, Sylvie et Alain. Et donc chaque jour, Paul nous dit, vous dit, marchez en lui, continuez de marcher en Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ce que nous avons dans la première phrase ici. Vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, et donc il est Seigneur sur toute notre vie. Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à nous soumettre volontairement à sa volonté dans toutes les sphères de notre vie. Et marcher en Christ Jésus, le Seigneur, eh bien ça commence là, aussi dans cette soumission, dans l'acceptation de Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie. Il est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Et puis, dans le verset 7, Paul utilise quatre verbes pour développer justement la nature, les caractéristiques de cette marche en Jésus-Christ. Le premier verbe, que nous avons ici et qui est tirée d'une image du monde agricole ayant été enracinée. C'est l'image d'un arbre qui trouve dans le sol tout ce dont il a besoin pour sa subsistance, pour sa stabilité, pour porter du fruit, etc. Sylvie et Alain, vous êtes exhortés à vous enraciner en Jésus-Christ, pour que ce soit par lui que vous pensiez, pour que ce soit par lui que vous réfléchissiez, pour que tout ce que vous fassiez soit imprégné de Jésus-Christ. Deuxième verbe, étant édifié en lui. Si la première image, celle de l'enracinement, pointe la partie invisible de notre vie, l'enracinement en Christ, eh bien ici, cette seconde image, elle pointe la partie visible, la construction, l'édification qui s'élève. Les racines, on ne les voit pas. On ne voit pas les racines d'un arbre, par exemple. Mais on voit l'arbre et on voit les fruits que l'arbre porte. Ça, c'est visible. Et plus nous voulons construire un bâtiment en hauteur, avec des étages, etc., plus il va falloir, avant cela, creuser pour placer des fondations qui tiennent l'ensemble. De même, si nous aspirons, et Sylvie et Alain, si vous aspirez à faire des choses qui auront un impact bienfaisant pour le royaume de Dieu, pour votre prochain, d'une manière générale, il vous faut compter sur les fondations qui soutiennent votre vie. Et donc, être enraciné, avec cette première image qu'on a vue, être enraciné en Jésus-Christ, profondément en lui. Comment cela ? Eh bien, en apprenant chaque jour davantage à le connaître, par une relation personnelle. Une relation personnelle qui est entretenue par la lecture de la Bible, parce que la Bible, nous croyons que c'est la parole de Dieu qui nous a donné pour notre croissance dans la vie chrétienne. Une relation personnelle aussi qui est entretenue par la prière. C'est un dialogue avec Dieu. Dieu nous parle par sa parole et nous lui parlons dans nos prières. Une relation aussi personnelle avec lui, entretenue, et peut-être on y pense moins, par une implication dans la vie de l'Église qui est le corps de Christ et Jésus en est la tête. Troisième verbe. Étant affermi dans la foi qui vous a été enseignée. L'affermissement dans la foi vient de l'enseignement qu'on entend, et cet enseignement, il est précisé, voilà, il est conforme à ce qui vous a été enseigné. On trouve régulièrement dans la Bible l'invitation à se souvenir de ces personnes qui ont eu un rôle particulier dans notre cheminement pour nous enseigner la parole de Dieu, pour nous expliquer la parole de Dieu, etc., pour que nous soyons affermis dans la foi en Jésus-Christ. Les personnes qui vous ont enseigné, Sylvie et Alain, que ce soit à Montpellier, que ce soit ici à Nîmes, ou les exhortations de ton oncle, tout ce qu'on a entendu dans votre parcours de vie, toutes ces personnes qui ont été comme ça des poteaux indicateurs, l'ont fait pour que vous soyez affermis dans la foi. Pour vous aider justement à dénoncer toute philosophie, toute pensée, toute sagesse humaine qui voudrait diminuer, qui voudrait éclipser Jésus-Christ. Ils l'ont fait aussi pour vous aider à saisir tout ce que vous avez en Jésus-Christ, au point que cela vous pousse à la reconnaissance à l'égard de Dieu. Et cette reconnaissance, c'est justement le quatrième verbe dont il est question ici, la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. Pour vous, Sylvie et Alain. J'attire votre attention, je vous ai dit qu'on ferait un petit peu de grammaire, que les trois premiers verbes de ce passage, ici, les verbes en orange, ce sont des verbes au passif. Un passif qui montre ici subtilement, mais fortement quand même, l'activité de Dieu à notre égard. C'est Dieu qui nous a enracinés en lui. C'est Dieu qui nous a édifiés en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a affermis dans la foi. Mais par contre, le quatrième verbe, abonder, il est à l'actif. Il est à l'actif parce qu'il nous implique, nous et notre reconnaissance à l'égard de Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous le remercions parce que, comme on le lit dans les versets qui suivent notre passage, Jésus-Christ a accompli le pardon de toutes nos offenses. Colossiens 2:13. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a effacé, le clouant sur la croix. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que Dieu a fait pour vous, Sylvie et Alain. Pour le dire autrement, Dieu agit en premier. Son rôle pour nous est décisif. Et ça se traduit dans les verbes ici par justement ces verbes au passif. Il a un rôle décisif à notre égard. Et notre rôle à nous, votre rôle, Sylvie et Alain, c'est justement d'être en réponse à son rôle, à tout ce qu'il a fait. Et cela passe par l'abondance de la reconnaissance dans une vie, dans la vie du disciple. Alors, pour être tout à fait précis, ce n'est pas parce que ces trois verbes-là sont au passif qu'on doit se reposer sur ce que Dieu fait. Non pas que ce qu'il fait ne suffit pas, mais souvent Dieu fait avec nous. Il le fait en comptant aussi sur nous. Et il vous appartient, Sylvie et Alain, d'entretenir cet enracinement, cette édification et cet affermissement dans votre vie de tous les jours. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi certaines des traductions, peut-être une traduction que vous avez ouverte devant vous, utilisent ici des impératifs et va traduire de cette manière-là, soyez enracinés, soyez édifiés, soyez affermis et abondés dans la reconnaissance. Pour rappeler que nous avons un rôle dans la continuité de ce que Dieu a déjà à réaliser pour nous. La croissance dans la vie chrétienne prend racine dans l'action de Dieu en nous et elle se prolonge par notre persévérance à vivre notre vie en Jésus-Christ et cela est conjugué par ce verbe en bleu ici, abonder, abonder dans la reconnaissance. C'est cela, marcher en Jésus-Christ, en lui. Chers Sylvie et Alain, chers tous, le défi des Colossiens il y a 2000 ans, bien, il se retrouve encore de nos jours. Nous vivons dans un monde pluraliste, avec une cohabitation de bien des religions, des philosophies, des pensées, des sagesses populaires. Et à cela s'ajoute que notre culture est marquée par l'individualisme, où l'être humain est placé au centre et Dieu est placé à la périphérie. L'être humain se pense supérieur à toute autre forme de réalité. L'être humain se pense intelligent, sage. Et les chrétiens se laissent parfois séduire par l'une ou l'autre de ces sagesses populaires, de ces philosophies. Comment, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, pouvons-nous tenir face à toutes ces tentations qu'il y a dans ce monde si précisément nous ne sommes pas enracinés en Jésus-Christ, édifiés en lui, sur lui, affermi dans la foi? Parce qu'il y a bien des choses qui peuvent nous déstabiliser. Bien sûr, il y a toutes ces choses qui faisaient partie ici de ce contexte dans l'église de Colosse, les philosophies, les sagesses populaires, toutes ces religions qui cohabitaient, mais ce peut être d'autres choses encore. La perte d'un être cher, une solitude qui se prolonge, l'une ou l'autre des choses que vous avez évoquées aussi dans votre témoignage, Sylvie et Alain. Une maladie qui dure. Et il n'est pas rare de nos jours que des personnes, parce que désespérées devant une maladie qui se prolonge, se tournent vers des guérisseurs, des médecines un peu borderline. Et parfois, le chrétien peut être tenté de faire de même. Aujourd'hui encore, des chrétiens peuvent être tentés d'ajouter en comptant sur des sagesses humaines, en essayant de rechercher leur sécurité dans autre chose que ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour eux. Et c'est donc penser sans même s'en rendre compte, sans le vouloir, que ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est pas suffisant, il faut rajouter autre chose. Mais aux Colossiens il y a 2000 ans, à nous aujourd'hui, et à vous, Sylvie et Alain aussi, l'apôtre Paul nous dit « Soyons pleinement convaincus que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est pleinement suffisante. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, purifiés de nos péchés. Il est ressuscité. Notre sécurité quant à notre salut n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés. Il n'y a que Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui, comme on l'a lu dans cette lettre aux Colossiens, lui, le premier-né d'entre les morts, nous donne cette espérance que nous passerons l'éternité avec lui. Et comme si ce que Paul venait de dire dans toute l'introduction à sa lettre, avec les deux versets que nous avons médités ce matin, et également les quelques versets qui suivent que j'ai lus rapidement tout à l'heure, comme si tout cela ne suffisait pas, voici ce qu'il dit au verset suivant ici, le verset 8 jusqu'au verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est une réalité qu'il nous faut nous rappeler chaque jour pour en vivre chaque jour de notre vie. À quiconque se revendique de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, il est inutile d'aller chercher ailleurs ce que nous avons où ? En Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli pour nous. Nous avons tout pleinement en Christ, en Jésus seul. Sylvie et Alain, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus seul. Chère Sylvie et Alain, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans votre marche à la suite de Jésus-Christ. Marchez chaque jour avec la reconnaissance pour tout ce que Jésus a accompli pour vous, conscient que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Amen.